Volume présente L'Engrange-temps, tome 1 de Nell Pfeiffer, lu par Stéphanie Moussu. Les remerciements sont lus par l'autrice. À tous les tisseurs qui donnent vie à leurs histoires. Prologue. C'est lors d'un soir bien particulier que Sophie de la Pointe comprit quel pouvoir un horloger manipulait entre ses mains. Pas plus haute que l'établi sur lequel son père travaillait, elle s'était permis d'épier le magicien à l'œuvre. Les oreilles de la fillette bourdonnaient bien plus que d'ordinaire sous l'effet de l'interdit. Les joues rouges et le cœur battant au rythme des balanciers, Sophie fixait le dos voûté de son père, éclairé par un halo de lumière jaune. C'est sûrement ainsi que plus tard elle se souviendrait de lui. Le nez plongé dans les engrenages, la moustache gigotant sous la mélodie du remontage et la chemise tirée par sa posture repliée. Sophie n'ignorait pas son labeur, mais n'en avait jamais été témoin. Elle réalisa, durant ces quelques minutes, quelle tâche ardue incombait à un tisseur de temps. L'imprégnation était un rituel solennel, puissant et complexe. Au-dessus de la pendule, Victor de la Pointe s'empara d'une aiguille. Pas une aiguille à tricoter, non. Une aiguille dont la tâche est de battre le temps. Troué d'arabesques, l'objet servit à faire couler quelques gouttes de sang sur les engrenages dorés de l'horloge. Aucun gémissement ni une seule grimace ne perturba la concentration de l'orfèvre. Un parfum étrange s'empara alors des narines de sa fille. Une odeur âcre qui s'infiltrait même dans sa bouche. Sophie l'avait déjà sentie autrefois, mais ce soir, à quelques pas de l'horloger, elle était plus prononcée. À l'aide d'une clé de remontage, Victor s'affaira dans ses tours. Cette action, la petite Sophie l'avait exécutée de nombreuses fois, tout comme son père. Cependant, cette fois-ci, remonter cette horloge semblait être le geste le plus difficile à effectuer. Victor affrontait toute la force du monde. Son poignet tournait lentement la clé, accompagné par un psaume chuchoté que la petite fille ne comprit pas. Fallait-il qu'elle s'approche pour réussir à capter les bribes de ce sort qui scellait une infime partie de son père au mécanisme de l'horloge? Sophie se demanda soudain s'il était douloureux de se séparer d'une fraction de son âme. L'imprégnation représentait pour elle une consécration. Même à son âge, elle savait que, un jour, ce serait elle, à cette table. C'était le lot de tous ses ancêtres, comme le lui avait tant de fois conté son père. Mais elle devait se l'avouer. Elle était effrayée à l'idée de voir son avenir ainsi tracé. Son destin était une ligne temporelle sans faille ni déviation. Sophie suivait le chemin dessiné par le temps et ne pouvait lui échapper. Il arrivait. Elle était prête. Pourtant, lorsque Sophie regardait son père tisser le temps, elle se demandait s'il était possible de le contrer, comme l'horloger le faisait, de s'en extraire. Elle espérait que, une fois devenue tisseuse de temps, elle serait elle aussi capable de le déjouer. Car après tout, ce serait elle qui l'aurait entre ses doigts et non lui qui l'étreindrait de son fil d'or. Lorsque Victor de la Pointe prononça le dernier mot de son incantation, une lueur timide éclaira son visage. L'instant d'après, une voix s'éleva, si caverneuse que Sophie crut que les murs avaient pris vie. L'étonnement fit trembler son petit corps et l'enfant recula d'un pas, faisant craquer le parquet. L'horloger releva la tête. Ses loupes binoculaires le rendaient semblable à une créature chimérique. « Tu devrais être couché depuis longtemps, petit monstre, » dit-il sans méchanceté. Sophie s'avança dans la lumière. Ses cheveux blonds étaient hirsutes, emmêlés par les draps rêches du lit auquel elle s'était dérobée. Le regard abattu qu'elle affichait avait été choisi avec soin et était interprété avec brio. Faire les yeux doux à son père était une parade à